Avec ce soir Ségolène Royal. Bonsoir Madame Royal.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Avant que l'on évoque la réponse que les Européens peuvent apporter à cette crise en ce moment, cette crise diplomatique entre Washington, Paris, les capitales européennes, comment avez-vous trouvé le président de la République hier, Alain Duhamel ?
Bah, honnêtement, je l'ai trouvé à la hauteur. Quand il s'agit de politique intérieure, économique ou sociale, ça n'est pas toujours ma réaction. Sur les questions européennes, depuis 2017, je trouve que c'est son dossier le plus solide. Et là, j'ai trouvé que hier, il prenait les proportions de ce qui se passait, à la fois avec de la gravité, mais en même temps sans affoler les populations, en disant, on verra bien ce qui se passera, je suis sûr qu'on en discutera, que les impôts ne seront pas augmentés. Mais en tout cas, surtout, c'était ça, à mes yeux, l'essentiel, même si ça n'est pas un moment agréable à vivre, mais en montrant à quel point, avec le revirement des États-Unis à cause de Trump, on assistait vraiment à un changement presque d'univers et en tout cas de période historique. Et que ça, il faut en avoir conscience parce que c'est une réalité et dont on voit les effets tous les jours.
Vous avez regardé Emmanuel Macron hier soir ?
Oui, mais je trouve que le temps était plus maîtrisé que pour le Covid. Dire paradoxalement, il parlait plus de guerre pour le Covid que là. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Il a quand même maîtrisé les choses par rapport à toute tentation que peut avoir un chef d'État de dramatiser les choses pour unir le peuple derrière lui, selon la vieille formule, si vous avez des adversaires en interne, inventez-vous un adversaire en externe et comme ça vous ferez taire les oppositions.
Et là, malheureusement, il n'y a rien à inventer.
Oui, et la seconde chose, c'est que pour la première fois, il a parlé plusieurs fois du processus de paix, parce que c'était presque un mot qu'on n'entendait plus dans la bouche des Européens. Chaque fois que certains parlaient de paix, on était pris pour des alignés sur la Russie. Et c'est la première fois, je pense, qu'il prend conscience que l'Europe est en retard par rapport au processus de paix. Et par conséquent, la question aujourd'hui urgente, c'est de savoir quel est le plan de paix pour l'Europe.
Ben justement, avant de l'évoquer, ce plan de paix, simplement écoutez ce qu'a dit Sergueï Lavrov. Aujourd'hui, c'est le ministre russe des Affaires étrangères, au lendemain de ce qu'a dit le président de la République, où il avait évoqué le mot menace.
Bien sûr, c'est une menace à l'égard de la Russie. S'ils nous considèrent comme une menace, organisent une rencontre des chefs d'état-major des pays européens et de la Grande-Bretagne, dit qu'il est nécessaire d'utiliser des armes nucléaires, se prépare à utiliser des armes nucléaires contre la Russie, c'est bien sûr une menace.
Alors, qu'est-ce qu'on doit répondre?
C'est grotesque. On ne menace pas la Russie de nos armes nucléaires. Nos armes nucléaires, c'est une dissuasion, en particulier vis-à-vis de la Russie. C'est évidemment pas une volonté offensive, ça c'est... Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait 60 ans que je vois des ministres d'affaires étrangères russes, ils se ressemblent tous, ils sont tous aussi désagréables, on a l'impression qu'ils sont choisis pour ça. C'est incroyable, c'est Molotov, c'est toujours la même chose. Et ils mentent avec un professionnalisme, une assurance absolument extraordinaire.
Alors, quelle réponse les Européens face à ça, cette fermeté, mensonge, on peut apporter
écoutez,
alors
j'allais dire c'est très simple. C'est idiot de vouloir dire c'est très simple, ça n'est pas très simple. Mais il y a une chose à mes yeux qui est claire, c'est que ou bien on considère que les Ukrainiens sont des amis, des alliés, des sortes de cousins issus de Germains, si on veut, et qu'on est solidaires d'eux. Et à ce moment-là, devant le lâchage américain et l'alignement de Trump sur Poutine, ce qui est quand même un phénomène historique extraordinaire, en tout cas qui m'a totalement surpris. Si on croit que ce sont vraiment nos amis et nos alliés, à ce moment-là, il faut se mobiliser pour être capable de les aider, dans un premier temps, les aider sur le champ, et puis d'être capable de se défendre. Et là, j'insiste là-dessus, de leur donner une chance de pouvoir négocier la paix sur un pied d'égalité.
De bonnes conditions.
Et non pas comme des vaincus.
C'est Ségolène Royal, vous dites Macron a parlé de la paix.
Oui.
Donc c'est un sommet pour la paix, c'est pas un sommet pour la guerre aujourd'hui.
Ça doit être un sommet pour la paix. C'est pour ça que la question de est-ce que l'escalade verbale avec la Russie est utile ou pas, je pense que non. Car la question est de savoir, est-ce que l'on veut participer aux négociations de paix ou pas? Je pense qu'il faut que l'Europe soit aux négociations de paix.
Et donc, mais ça sera avec les Russes.
C'est donc pas en insultant ou le président américain ou le président russe.
Mais le président américain, il n'a pas été insulté.
Non,
hier,
mais après ce qui s'est passé dans le bureau ovale, on a entendu tout.
Hier soir.
Oui, non, mais je veux dire.
Il y avait une différence énorme.
Il n'est pas épargné non plus. Donc, il ne faut pas être sur le même ton que l'Europe a un autre ton à adopter. Et surtout, elle doit clarifier ses objectifs en matière de paix. D'abord parce que c'est notre mission européenne, la paix, la prospérité des peuples et les processus démocratiques. Donc on ne peut pas rester en marge du processus de paix.
Non.
Et donc si on fait de la surenchère avec la Russie, c'est incompatible avec le fait d'être autour de la table. Quand j'entends même un ancien Premier ministre dire « Vous êtes collabo si vous parlez avec Poutine »,
c'est ce qu'a dit Jean-Pierre Raffarin ici, même à votre place.
Mais c'est pas raisonnable.
Oui, c'est pas raisonnable
de dire
ça.
On peut pas parler comme ça.
Surtout ce vocabulaire. Surtout à la Russie qui a quand même perdu. Vous savez combien il y a eu de Russes morts pendant la guerre pour nous aider contre le nazisme. Oui. 25
millions. Et sans les Russes, on n'aurait pas vaincu Hitler. Oui.
Voilà. Donc il faut faire attention et surtout il faut avoir des idées claires en matière de processus de paix pour ne pas reproduire ce qui s'est passé en 2022. Juste un mot. En 2022, le président Zelensky veut s'engager dans un processus de négociation, de cessez-le-feu et de paix. Les Américains, l'administration Biden, lui interdit. Les Européens s'alignent sur Biden. Alors que nous aurions pu, au contraire, marquer notre distance sans être hostile avec les États-Unis d'Amérique en disant « Mais si, essayons !» Peut-être que ça va aboutir, peut-être que ça ne va pas aboutir, mais la Turquie qui s'était proposée comme médiation, on aurait dû dire « Nous voulons également être médiateurs ». Donc, il ne faut pas rater une seconde occasion d'être dans ce processus, parce que c'est nous qui pouvons protéger l'Ukraine. C'est nous qui pouvons être garants d'un équilibre et d'une paix juste.
Alors, en 22, c'est quand même le moment où l'attaque a été massive.
Oui, mais c'est.
Et nous.
C'est le président ukrainien le souhaitait, il fallait l'aider.
Non. Et les Européens ont été immédiatement solidaires des Ukrainiens. Alors, c'est vrai que les rapports avec les États-Unis étaient extrêmement différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui. On peut presque dire inverse. Est-ce que, à l'époque, il y avait une possibilité de paix? Franchement, ça n'est pas ce qui ressortait. En tout cas, c'était un moment où on était en pleine offensive russe et où les Russes envahissaient et avec des moyens militaires disproportionnés par rapport à ceux dont disposaient les Ukrainiens. Mais bon, le 22, c'est important, mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce qu'on doit faire maintenant.
Oui.
Ce qu'on doit faire maintenant, c'est ce qui, bien sûr, à terme, doit amener à la paix, mais ce qui doit amener à une paix qui soit équitable pour les Ukrainiens. Mmh. C'est-à-dire pas ce que demande Poutine et ce qu'appuie maintenant Trump, c'est-à-dire pas donner en fait une victoire aux Russes conservant 20% du territoire ukrainien.
Mais ça, on pourra le faire si on est à la table des négociations.
Je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que quand il y aura les négociations, et le plus tôt serait le mieux, évidemment, quand il y aura les négociations, il faut que, évidemment, l'Europe y participe et qu'on y soit aux côtés des Ukrainiens.
Mais sur la base,
pas de la victoire de Poutine sur l'Ukraine, mais d'un accord équilibré, équitable entre l'Ukraine et la Russie.
Mais c'est quoi cet accord équilibré, équitable? C'est là où l'Europe n'est pas assez claire. Si l'Europe, en travaillant avec, bien sûr, le président Zelensky, dit voilà quel est le schéma à mettre sur la table et à discuter, peut-être il y aura des choses qui ne seront pas reprises, peut-être il y aura des choses qui
vont
aller plus loin, mais le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de document européen de stratégie et de négociation et de stratégie de dispositif à l'issue d'un cessez-le-feu, à l'issue d'un premier accord, à l'issue d'une confirmation de cet accord, à l'issue de la garantie de cet accord. C'est-à-dire ces quatre points qui traditionnellement rentrent dans les accords de paix ne sont pas sur la table.
L'Europe n'a pas
encore fait ce travail.
Non, mais
c'est ça qu'il faut faire maintenant.
Non, mais il y a un non-dit qui est que les Russes et maintenant malheureusement les Américains considèrent que la victoire est russe et donc que la Russie doit pouvoir conserver ce qu'elle occupe, c'est-à-dire 20% des territoires.
On n'a pas commencé à discuter.
Ah ben si, si. Non, mais c'est ce que disent, c'est ce que disent les Russes. C'est ce que disent les Russes officiellement. Bon, en ce qui concerne les Européens, bien sûr, ils doivent être aux côtés des Ukrainiens pour défendre le point de vue. Et on sait très bien qu'il y a un objectif qui n'est pas dit aussi clairement que je le fais, mais qui est un objectif implicite, qui est que du côté des Ukrainiens et et a fortiori des Européens, l'idée est qu'ils récupèrent leur territoire, mais que la Crimée reste en Russie.
Mais en attendant de s'asseoir.
C'est l'objet même d'une discussion.
Mais en attendant, Madame Royal et Alain Duhamel, ce que l'on entend depuis plusieurs jours, c'est qu'il faut augmenter l'effort de défense.
Se réarmer.
Voilà, se réarmer. Alors, de manière.
Il faut de l'argent.
Européenne et française aussi. Hein.
Bien
française
sûr.
Aussi, on connaît les manques, on manque d'avions, on manque de rafales. Et comment on se réarme alors qu'on n'a plus d'argent, qu'on doit faire des économies? Qui paye? Où va-t-on trouver l'argent?
Alors, il y a deux choses.
Des impôts?
Non. Enfin, non.
Emmanuel Macron a dit non.
Non, ils disent que non. Et Emmanuel Macron l'a dit, et aujourd'hui, François Bayrou l'a répété.
En même temps, François Bayrou, il dit on ne touche pas au modèle social, donc je ne sais pas où
on trouve l'argent. Oui, oui. Non, mais alors, c'est votre question. En ce qui concerne l'argent, si on part du principe que ça n'est pas par augmentation des impôts, si on part du principe, il faudra voir dans quelle mesure ça sera respecté, que ça ne sera pas au détriment du modèle social français, à ce moment-là, la logique, c'est un système d'emprunt. Alors, ça peut être un système d'emprunt comme le propose von der Leyen, c'est-à-dire un système d'emprunt européen. Bon, mais à ce moment-là, il faut dire les choses, c'est de la dette supplémentaire s'ajoutant à de la dette. Ou bien alors, moi c'est ce que je crois personnellement, je dis pas du tout que c'est ce que pensera le gouvernement, hein, mais ce que je crois personnellement, c'est qu'on peut très bien organiser, comme ça s'est fait très souvent dans notre histoire, un emprunt national. Alors, dans certains cas, c'est obligatoire.
Vous pensez que les Français joueront le jeu ?
Écoutez, je regardais un petit peu l'histoire des emprunts nationaux pour ne pas dire n'importe quoi en face de Ségolène Royal, parce que je sais qu'elle est redoutable. On en a dans notre histoire fait une vingtaine d'emprunts nationaux. Pour la seule guerre de 14-18, on en a fait 4 pendant la guerre et un 5e qui était le plus utile, qui était pour la reconstruction et qui était 2 ans après.
Mais depuis,
des emprunts, il y en a eu sans arrêt. Il y a eu l'emprunt Pinet qui est le plus célèbre, mais il y a eu un emprunt Giscard, il y a eu un emprunt Mauroy, donc Mitterrand, des emprunts, on en fait toujours. Alors évidemment, il faut que les emprunts soient, ce qui était l'astuce de Pinet, suffisamment intéressants
pour que les Français
bon,
y adhèrent.
Oui, mais... ça a très bien marché.
D'accord. Alors, Ségolène Royal.
Je pense qu'il y a 3 points.
Comment on trouve l'argent?
Le premier, c'est qu'il faut, effectivement, l'actualité nous le démontre, que l'Europe ait sa capacité de défense autonome. L'Europe, les nations d'Europe. Et que les nations, dans le cadre de l'Europe, parce que la mobilisation, le patriotisme, ça se fait toujours dans le cadre d'une nation, avec une coordination européenne. Mais c'est
bien
les
sûr.
Nations qui composent l'Europe qui doivent remettre leur dispositif de défense au niveau. Première chose. Deuxièmement, ça doit se faire dans un processus démocratique. C'est-à-dire, si une nouvelle fois on a des décisions supranationales prises au niveau européen ou prises au niveau
de chaque décideur. Mais non,
c'est pas une compétence européenne. Ou même sans débat parlementaire ou sans.
François Bayrou a dit si c'est
Mais
François Bayrou a parlé de loi. Projet de loi.
La question de la loi. C'est toujours la question, quel est l'objectif qui est stratégique? Quel est l'objectif militaire? Quel est le niveau des besoins? Et quel sera l'impact sur l'économie française? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que la France est dans une situation particulière et a un rôle particulier à jouer avec sa force de dissuasion nucléaire. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'Alain a dû bien suivre les débats parlementaires de l'époque. Quand le président Sarkozy décide de rentrer dans le gouvernement intégré de l'OTAN, il le fait, souvenez-vous, avec un 49-3. C'est-à-dire que les Chiraciens sont contre, les centristes sont contre, la gauche est contre.
C'est vrai.
Il impose cette entrée dans le gouvernement intégré de l'OTAN. Donc, je pense qu'il faut jouer sur 2 éléments. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a évoqué à juste titre. C'est dans quelles conditions on peut étendre, parce que c'est ce qui coûte le moins cher, ça coûte même rien, d'étendre la force de capacité de dissuasion nucléaire française à l'Europe. Dans quelles conditions?
En gardant le doigt sur le bouton.
Certains s'y opposent en disant... À condition, effectivement.
Regardez
les deux problèmes.
Sous notre contrôle absolu.
Attendez. les deux sujets sont liés, c'est-à-dire que la sortie, il faut réexaminer l'opportunité et la nécessité de sortir du gouvernement intégré de l'OTAN. Et d'ailleurs, Sébastien Lecornu l'a évoqué en réponse aux parlementaires. J'ai trouvé que c'était un point positif parce que les centristes avaient été aussi hostiles à cette entrée.
Oui.
Et donc, c'est aussi une force supplémentaire pour l'Europe parce que si la France peut faire valoir sa voix particulière en détenant la force de dissuasion nucléaire qui est déjà là, les Français ont beaucoup
c'est l'objectif.
Le général de Gaulle, on a beaucoup investi. Il n'y a pas de raison qu'on réinvestisse à fonds perdus sur des armements traditionnels. Et les autres Européens, ceux qui n'ont pas fait cet effort, peuvent se mettre en complément.
On ne peut pas se contenter de la force de dissuasion. Elle est évidemment essentielle.
Aussi du conventionnel.
Elle nous caractérise.
Oui, elle est forte.
Il faut qu'on ait une armée, non pas celle qui existe aujourd'hui, qui est une très bonne armée professionnelle, mais qui était prévue pour des petites projections, pour l'essentiel en Afrique. Il faut maintenant une armée qui soit une armée en fonction de la nouveauté de la situation en Europe. Et ça veut dire qu'il y a énormément d'investissements à faire. Et il faut veiller, et là vous serez sûrement d'accord, pour que ce ne soit pas au détriment du modèle social.
Merci Madame Royal.
Justice fiscale.
Ou un emprunt intelligent.
Merci Alain Duhamel. Ouais.